Et aujourd'hui, on est à Champigny-sur-Marne.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, bienvenue à Rendez-vous Place du Marché. On continue notre tour de France. Vendredi dernier, Aurélie Sfez vous a fait découvrir Breil-sur-Roya. Et aujourd'hui, notre radio itinérante s'est posée au marché de Champigny-sur-Marne, une commune de 77 000 habitants située à 15 km au sud de Paris. Champigny-sur-Marne a longtemps été Champigny-la-Rouge, un bastion communiste. Même Fidel Castro, l'ancien leader cubain, est venu ici dîner chez son ami Georges Marchais. C'était en 1995, un repas léger mais bien arrosé, de l'aveu même de l'ancien secrétaire général du PCF. Mais l'année dernière, Champigny a vécu un véritable coup de tonnerre. La mairie de Champigny a basculé au centre droit après 70 ans de règne communiste. Champigny-sur-Marne, c'est aussi une ville tout en contraste. D'un côté, vous avez sa zone pavillonnaire. À 5 minutes des bords de Marne, on y croise des joggeurs, des rameurs sur des avirons. Mais il y a l'autre facette de Champigny, plus bétonnée, avec ses quartiers populaires. Pendant longtemps, quand on parlait de cette commune, on pensait aux cités sensibles, celles du Bois-l'Abbé et des Mordacs. Avec la politique de rénovation urbaine, la physionomie de ces quartiers a considérablement changé de façon positive. Mais certains problèmes persistent. La violence entre jeunes a défrayé la chronique ces derniers mois. Kula Kanamakasi, bonjour. Vous avez grandi au Bois-l'Abbé. Quand vous étiez jeune, vous avez connu ces problèmes de rixes entre bandes?
Bonjour. Quand étant jeune, on était impliqué dans ces phénomènes de rixes. Je faisais partie d'une bande dans le quartier du Bois-l'Abbé. On aimait bien s'affronter avec les villes limitrophes, les quartiers des villes limitrophes, pour tout et n'importe quoi, pour représenter le quartier. Avec du recul, on a vu qu'on a fait n'importe quoi, en fait.
Et vos pires ennemis, c'était les jeunes d'un autre quartier, celui des Hautenoux à Villiers-sur-Marne. Alors, les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. Vous nous présenterez tout à l'heure Moussa Konaté, ce champion de boxe thaï, 4 titres mondiaux à son palmarès quand même, vient de Villiers-sur-Marne. Vous et d'autres, vous avez mis en place des mesures pour que la nouvelle génération ne reproduise pas vos erreurs. Vous êtes venu aujourd'hui avec l'un des jeunes que vous avez aidé, Bamba. On fera sa connaissance tout à l'heure. À côté de vous, Hakim Jaziri, bonjour. Je tenais vraiment à vous inviter, même si vous êtes venu en voisin, d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Vous êtes un comédien reconnu, mais surtout, vous portez une parole forte que l'on retrouve dans la pièce Désaxé, pièce que vous avez écrite et qui va être adaptée sous la forme d'une série télé. Vous êtes un fervent défenseur de la République, ça n'allait pas de soi, car vous avez eu une enfance qu'on peut qualifier d'agitée, marquée par la délinquance. Vous avez aussi failli tomber dans le radicalisme islamiste.
Oui, absolument, oui. À cette époque-là, j'avais une vision un peu étriquée des choses, donc c'était deux options, c'était soit finalement être un agneau, accepter le sort que mes camarades étaient en train de me réserver, soit devenir un loup. J'ai opté pour la deuxième option, en étant un peu jusqu'au boutiste, on va dire. Moi, ça a été le théâtre qui m'a sorti de tout cet engrenage, donc voilà, en gros, la raison de ma présence ici.
C'est la culture qui vous a sauvé.
Ouais. Ah ouais, c'est la culture qui m'a sauvé, ouais.
On parlera de votre combat pour vous en sortir et on parlera aussi celui de Dasma Ashraf, une femme exceptionnelle qui aide d'autres femmes à s'intégrer et à s'émanciper. En parlant d'intégration, on s'intéressera à la communauté portugaise très présente à Champigny-sur-Marne. L'occasion de déguster des spécialités ibériques tout à l'heure à l'heure de l'apéro. Et on terminera en musique avec Aïcha Touré. Cette artiste campinoise aux multiples talents nous jouera de l'accordéon à la fin de l'émission. Mais tout de suite, on écoute de la folk kabyle avec Yeli Yeli et son titre Tassousmi. Cette musicienne a grandi pas loin d'ici, à Créteil, une pépite musicale proposée par notre ami Djoubaka.
Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. Tassousmi, Tassousmi, Tassousmi. Il monte
Vous êtes sur France Inter et aujourd'hui, on a rendez-vous place du marché à Champigny-sur-Marne. Alors, c'est un marché assez cosmopolite, assez mixte. Hein, vraiment, au niveau de la clientèle, on voit qu'il y a vraiment des gens issus de l'immigration. Il y a des gens qui sont blancs, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément le cas partout, Koula. Dans d'autres coins de Champigny, par exemple là-haut, au quartier du Bois-l'Abbé que vous connaissez bien, c'est moins cosmopolite ?
Bah, vous savez, dans les quartiers prioritaires, il y a beaucoup de communautés qui se croisent, etc. Et tout. Mais après, c'est vrai que là, je suis agréablement surpris que dans le marché de la mairie, il y a pas mal de communautés qui se croisent, etc. Et tout. Mais sinon, c'est un peu partout pareil, en vérité. Mais après, c'est les habitudes. Hein. Quand on vit dans un quartier, on fréquente plus le marché du quartier. On va pas faire 20 minutes de bus pour aller dans un marché en bas, etc. Et tout. On reste cantonné dans le lieu qu'on contourne le plus souvent, quoi, en fait.
On est ici pour parler de l'émancipation des femmes dans les quartiers populaires, également de la communauté portugaise très présente ici. Et on découvrira à la fin de l'émission une artiste aux multiples talents. Mais on va commencer par un sujet qui a beaucoup marqué les esprits cette année, c'est la violence des jeunes, notamment les rixes entre bandes. La liste est tragiquement longue. On se souvient de Yuri, 15 ans, tabassé à Paris. Lilibel, 14 ans, mortellement poignardée à Saint-Chéron dans l'Essonne. Ou encore Mathéo, 17 ans, mortellement blessé à l'arme blanche par un jeune de 16 ans. Ça s'est passé ici, à Champigny-sur-Marne, il y a 2 mois. Hakim Jaziri, vous êtes un comédien et un auteur reconnu. Vous avez écrit la pièce Désaxé, qui a reçu plusieurs récompenses, dont le Grand Prix du théâtre en 2018. Elle est même jouée en Angleterre. Cette pièce raconte votre histoire. Et justement, vous y parlez de la délinquance et de la violence. Vous-même, vous avez été passé à tabac quand vous étiez ado. Comment vous expliquez cette violence et quelles solutions peut apporter avec le recul ?
Comment expliquer cette violence ? Je pense que c'est un héritage déjà. Koula a expliqué tout à l'heure effectivement que quand il était plus jeune, il a participé à des rixes, comme moi, comme beaucoup de jeunes des quartiers populaires, et parfois en plus on perpétuait des traditions sans les comprendre. C'est-à-dire qu'il y avait les plus grands qui étaient déjà en embrouille, mais on connaissait pas forcément les causes.
Mais c'est étonnant, vous pouviez vous battre sans savoir pourquoi.
Aujourd'hui, je peux vous parler par exemple des rixes qui se passent dans le 19e ou dans le 18e arrondissement. Il y a des cités qui sont en train de, en ce moment même, hein, il y a des rixes qui se passent entre bandes, et quand on interroge les jeunes sur les raisons pour lesquelles est-ce que cette violence existe, ils ne savent absolument pas. Voilà. Mais ça parle aussi de ce qu'est la violence. C'est un code, un moyen de communication. Il y a des choses qui se passent effectivement et qui, en réalité, on n'a pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer à travers différentes choses. Par exemple, la culture. Parfois, on n'y a pas forcément accès. On n'a pas le temps du solfège le mardi de 18h à 20h. On n'a pas le temps de l'équitation. D'ailleurs, il n'y a pas de chevaux chez nous. Voilà, c'est tout ça qui participe à un moment donné à créer une sorte de carcan dans lequel finalement la loi du plus fort s'installe. Ma génération a grandi avec cette haine-là, cette frustration. Et je pense qu'on a légué aussi cet héritage-là à la génération qui suit. Aujourd'hui, on a conscience qu'on a fait des erreurs et on essaie de les rattraper.
C'est votre cas, Koula Kanamakasi. Vous connaissez bien le problème. Vous avez grandi au Bois-l'Abbé, un quartier populaire de Champigny. Et à côté de vous, il y a Moussa Konaté. Vous venez de la cité des Hautes-Noues à Villers-sur-Marne. Alors aujourd'hui, vous êtes côte à côte. Mais il y a quelques années, vous et vos camarades, vous étiez face à face. Et on peut dire que c'était très violent.
C'est clair qu'il y a quelques années, c'est vrai, on était face à face. On s'affrontait entre bandes. Or qu'on était des amis, comme je vous avais dit auparavant, et des fois ça allait très très loin parce que il y a eu des incarcérations, il y a eu des blessés graves. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes encore qui ont des séquelles, en sachant que en fait c'était pour des futilités. La seule chose qui nous permettait d'exister, c'était de s'identifier à notre quartier en fait. Malheureusement, nous représenter notre quartier, c'était le but. Ça nous donnait l'adrénaline. On s'est forcé à faire des choses, mais pas du bon sens en fait. Au lieu de faire des choses plus saines. On s'amusait à se taper dessus pour tout et n'importe quoi et on a perdu du temps. Parce qu'en fait, le temps qu'on a perdu à se taper dessus, c'est du temps qu'on aurait pu consacrer à monter des structures ensemble, à monter des actions ensemble. On était jeunes, on n'était pas suivis, on manquait de repères, on était livrés à nous-mêmes.
Moussa Konaté, vous, à Villers-sur-Marne, si vous battiez pour des questions de réputation ?
Ouais, comme vient de dire Koula, c'est plus sur le terrain en fait. Chacun veut être fort dans son terrain, dans son quartier. Et moi, quand je suis arrivé en fait en 2001 à Villers-sur-Marne, en tant que médiateur en fait. Je suis arrivé en tant que médiateur, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y a eu ces risques-là, mais une autre génération plus petite en fait, 18, 22 ans. Et une fois par semaine, en tant que soit Villers-sur-Marne ramasse un coup de couteau, soit c'est Bois-l'Abbé qui ramasse un coup de couteau. Et à un moment donné, il y a eu tellement, pendant un mois et demi, ça a percuté. Après, ce que je fais, comme je suis un acteur de terrain, j'ai convié Koula et d'autres personnes, d'autres grands et qui seront respectés dans leur quartier, voilà, s'est réunie pour justement pour atteindre cette situation. Sinon, ça ne pouvait pas durer.
Moussa, vous êtes venu avec un jeune des Hautes-Nous, Bamba. On peut se tutoyer ?
Oui, pas de souci.
Tu as 19 ans. Toi, tu as été mêlé à des bagarres entre quartiers ?
Non, j'ai pas spécialement été mêlé, mais j'ai vécu un peu tout ça d'un œil extérieur parce que c'était des amis proches à moi qui y participaient malheureusement. Et c'était triste à voir, hein, ce qui se passait. Vu on était très jeunes, on devait avoir, ça a commencé à peu près, on devait avoir 14 ans pour la plupart. Et à 14 ans, être mêlé à toutes ces histoires-là, c'est très compliqué, surtout qu'on est dans une période de construction quand même. On va encore à l'école, on fait du sport, on fait toutes ces choses-là. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas pu poursuivre leurs études correctement parce qu'il y avait toutes ces histoires-là.
Mais qu'est-ce qui a fait que toi, t'as pas pris part à ces bagarres alors que tes camarades, eux, y allaient sans problème ?
La maturité. Je pense que c'est vraiment ça. Moi, j'avais ce truc-là où je prenais du recul par rapport à tout ça. J'avais conscience déjà à cet âge-là des risques que je pouvais avoir derrière. Soit je pouvais finir devant la justice ou être handicapé à vie ou même mourir.
Mais quand tu disais ça à tes camarades, eux, ils te disaient quoi ?
C'est comme si un peu... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme un espèce de jeu, on va dire. Dans le sens où on fait des choses, mais sans avoir conscience des risques. Donc du coup, ils se disaient, bon, en soi, je vais juste mettre un coup et c'est bon, il n'y a plus rien. Et malheureusement, ce coup-là, il peut être fatal pour certaines personnes et on l'a très bien vu.
Hakim Jazeri, dans une cité, qu'est-ce qu'on respecte ? Quels sont les critères pour se faire respecter dans le quartier ?
En règle générale, si je dois être manichéen, on dirait que c'est celui qui a le plus de thunes, donc le plus d'argent, moyen matériel, on va dire. Celui qui est le plus beau, ou celui qui a du succès auprès des filles, par exemple, ou celui qui sait se battre. Donc pas forcément toujours les bonnes raisons. Ça, c'est si je suis manichéen. Là, on a un exemple très intéressant, là, Bamba qui prend la parole et qui explique que lui-même, de son propre chef, s'est exclu de ses rixes, justement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui font le choix, justement, de ne pas se mêler à ces rixes-là. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément envie de s'y mêler. Et qu'il y a aussi une pression extérieure, une pression de la société, une pression du quartier, une pression que l'on se met à soi, une pression dont ils ont hérité, quoi, en fait. Et cette pression-là fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir le choix. On coupe le cerveau, on coupe le mental, et puis, on n'a même plus conscience des risques, quoi, en fait. Donc, il se passe des choses, et puis finalement, on se retrouve d'un coup devant la justice et on ouvre les yeux face à un juge, ou on ouvre les yeux face à un mort, ou on ouvre les yeux face à un blessé grave, etc. Donc, l'idée, c'est effectivement, on a des solutions. On peut travailler main dans la main avec l'éducation nationale, on peut les prendre des tout petits et leur faire comprendre un certain nombre de choses. On peut essayer de faire en sorte de leur inculquer ce qu'est la République, ce qu'est le principe même de faire société. J'aime pas trop le terme du vivre ensemble parce que voilà, c'est un terme qui a été détourné de son sens initial, je trouve. Mais voilà, j'aime préférer le mot faire société. Donc comment on peut le faire aujourd'hui ? C'est la question qu'on se pose.
Asma Ashraf, vous aidez les femmes du Bois Labbé à s'émanciper. Ce sont souvent des mamans. Vous-même, vous avez 4 enfants. Comment vit-on la violence de ces enfants qui sont de plus en plus jeunes, hein ? On rappelle que 70% des personnes impliquées dans ces bandes sont mineures. En tant que mère, comment vous vivez ça et comment vivent ces femmes que vous rencontrez quand elles voient leurs enfants se battre comme ça ?
Alors comment le vivre en tant que mère, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'ayant des enfants aussi et des garçons à la maison, donc et ayant grandi au Bois Labbé moi personnellement, donc c'est vrai que l'image de la cité ça fait peur pour les parents. Et après il y a une prise de conscience à avoir, c'est pas parce qu'on vit dans le Bois Labbé qu'on doit vivre dans cette situation là aussi, et c'est inculquer ça à ses enfants aussi, l'éducation qu'on apporte à nos enfants à la maison et à l'extérieur, c'est important. C'est important que les parents prennent conscience, quartier populaire ou pas, on apporte une éducation. Moi, je travaille beaucoup sur le soutien à la parentalité. Je travaille beaucoup sur les questions d'accompagnement des femmes aussi au niveau de l'éducation nationale. Et je pense que c'est au plus bas, l'âge le plus bas, en fait, hein, c'est à partir de la maternelle qu'on accompagne son enfant sur ces questions-là. Et l'autre point, c'est aussi valoriser les parents dans leur diversité culturelle et apporter aussi une réponse sur l'éducation, mais tout en valorisant leur éducation. Aussi.
Koula Kadamakassi avec Moussa Konaté, alors que vos deux cités étaient rivales, vous avez joint vos efforts pour justement trouver des solutions pour empêcher que ces bandes ne se battent. Qu'est-ce que vous avez mis en place ?
En fait, c'est tout simple. Nous, maintenant, on est pères de famille, on a des enfants qui ont à peu près le même âge des jeunes qui se tapent dessus, là. Donc nous, instinctivement, en fait, on s'est appelé. Or qu'on savait que c'était quand même un peu tendu entre nous parce qu'on ne se parlait pas depuis 10-15 ans. Donc ça a été difficile quand même. De là, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête tout ça. Donc il fallait qu'on, pour interrompre ce phénomène en fait, de bagarre avec ces jeunes, parce que c'était allé loin. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il y avait deux jeunes de la ville de Champigny qui étaient gravement blessés. Il y en a un qui était à Georges Pompidou, qui était entre la vie et la mort, etc. Et tout.
À l'hôpital Georges Pompidou.
Ouais, à l'hôpital Georges Pompidou. Ensuite, de là, on s'est dit, il faut qu'on se voit vraiment rapidement. C'est que, au coup de fil, on devait se voir deux jours après. Pour pas qu'il y ait un retour de flamme. Parce que vous savez comment ça se passe. Il y a une situation, en fait, de vengeance. En plus, ça peut mêler plusieurs familles. On a décidé d'identifier les jeunes qui participaient vraiment à ces rixes. Ouais. Mais vraiment les jeunes qui étaient impliqués. Quatre de chaque quartier.
On a Bois-l'Abbé et Haute-Noue, Champigny, Villiers-sur-Marne.
Ensuite, on est allé dans un lieu neutre que M. Moussa Konaté a identifié.
C'était quoi? C'était où?
En fait, comme je suis chef de service médiation à la ville de Villiers-sur-Marne, on a pris un terrain où j'avais une structure, les Nang. Et c'est là, justement, on a convié les quatre jeunes de Haute-Noue et quatre jeunes du Bois-l'Abbé, avec quatre grands du Bois-l'Abbé et quatre grands des Haute-Noue.
Les grands, c'est les anciens, c'est les gens comme vous, quoi.
Quand on dit les grands, nous on dit les personnes légitimes. Voilà. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, bon, il y a des jeunes que les parents, ça ne suffit plus, ils n'ont pas peur de la police, mais la légitimité des personnes ancrées dans le quartier, ça met un coup de fouet à ces jeunes. Et en fait, les jeunes ne sont pas bêtes. Hein. Ils ont tous fait des études, etc. Et tout. Ils se disent, on a déplacé ces personnes-là, ils prennent de leur temps pour nous, donc là, on n'a pas le choix. Donc on a identifié les personnes légitimes et en sachant qu'ils étaient des acteurs de terrain de chaque quartier et en sachant que ces personnes-là aussi, il y avait pas mal de responsables associatifs, des entrepreneurs et tout. Donc ça a fait un bon milkshake et on s'est mis autour d'une table et ensuite on a posé les vraies questions.
Et vous avez fait des rencontres, vous avez organisé des actions en commun avec ces jeunes qui se tapaient dessus et vous les avez obligés presque à faire des choses positives ensemble.
Voilà, on a mis en place des activités sportives. On a fait thématique, toucher sans se faire toucher.
Mais faisait attention qu'il n'y ait pas de compétition, que les rivalités entre les quartiers réapparaissent à l'occasion de ces activités.
Il y a eu plusieurs étapes en vérité. Parce que dans la réunion, on leur a fait comprendre aussi, on a discuté de pas mal de choses. D'abord, on leur a expliqué pourquoi vous vous tapez dessus. Ben, ça a bégayé en fait. Oh non, on ne sait pas vraiment, pour un regard, etc. Et tout. Ensuite, on leur a fait comprendre, vous savez, autour de la table, les grands de Villiers du Bois-l'Abbé, vous savez qu'on se tapait dessus nous avant? Et ils n'en croyaient pas leurs yeux, on leur a montré les cicatrices, malheureusement on était obligé de leur montrer. On leur a dit, vous comprenez que nous on a perdu du temps, on aurait pu faire des choses ensemble. Et malheureusement, tout le temps qu'on a perdu, ça nous a apporté préjudice parce qu'on aurait pu monter des choses ensemble. Et même ça aurait pu éviter ce qui se passe en ce moment. Et donc là, eux-mêmes ils se sont dit, ah ouais mais là c'est... Et donc on leur a dit, nous ce qu'on va faire, parce que maintenant vous êtes nos petits frères et vous êtes nos enfants, on va vous proposer des choses, on va vous accompagner pour les formations, on va vous accompagner pour l'insertion. Si vous avez besoin de passer le permis, on va vous faire le relais par nos structures. Mais pour qu'une situation de confiance, vous allez commencer avec nous et ensuite, au fur et à mesure, on va intégrer les institutions, le service jeunesse, la mairie. Vous êtes les enfants de la ville, de vos villes en fait. Chacun a son rôle à jouer. Donc les premières actions qu'on a décidé de mettre en place avec les acteurs associatifs et les acteurs de terrain, etc., on s'est dit, on va faire un événement au Bois-l'Abbé, deuxième événement, on va le faire à Villiers, troisième événement au Bois-l'Abbé, ainsi de suite. Comme ça, ça permet d'intégrer les jeunes du quartier des Haute-Noue qui viennent au Bois-l'Abbé, renouer des liens, parce qu'en fait, c'est des jeunes qui se connaissaient, parce qu'ils côtoyaient les mêmes lycées, en vérité. Ils côtoyaient les mêmes lycées, ça fait qu'il y en a pas mal qui se connaissaient, il y a des familles qui se connaissent. Donc de là, après ces événements, on a vu que ça matchait bien. Et ensuite, les services jeunesse des deux villes et les clubs de prêve ont décidé de faire un voyage pour vraiment consolider ces liens. Et de ce voyage-là, tout le monde en est sorti grandi. Ces jeunes, en fait, on leur a laissé un peu de place. Et c'est là qu'ils ont pu discuter, mais vraiment entre eux, et commencer à se dire, on a fait n'importe quoi.
Et là, vous avez même laissé ces jeunes, par exemple, fumer la chicha, jouer à la console, parce que justement, vous connaissez cette réalité du terrain. C'est des moments où ils peuvent se rencontrer et avoir des relations apaisées. C'est un bel exemple hein, avec une jazzerie.
Il y a un énorme boulot dont les gens ne se rendent absolument pas compte. On est sur un fil ténu en fait. Hein. Franchement, on est des équilibristes tout le temps parce qu'il y a, encore une fois, on joue avec aussi leurs émotions. On fait appel à leur empathie, on essaye de leur faire retrouver aussi le chemin de la réflexion, le chemin d'apprendre à se connaître et tout ça. Tout ça, c'est un travail vraiment. Encore une fois, on est vraiment sur le fil. Et si ça réussit, c'est uniquement grâce à un engagement sans faille. Mais quand je dis un engagement sans faille qu'il faut impérativement saluer, encore une fois, je vous dis, hein, régler les problèmes de nos quartiers populaires aujourd'hui, c'est régler les problèmes de notre société. C'est clair, net et précis. Nous avons quasiment 30 ans d'avance en termes de problématiques que la société civile. On a eu l'impression que la société civile venait de découvrir les violences policières. C'est un exemple. Durant les manifestations des Gilets jaunes, or nous, ça fait 30 ans qu'on est en train de les clamer. Ça fait 30 ans qu'on est en train de le crier à la face du monde sans forcément toujours avoir été entendu. Attention, hein, je n'en fais pas une généralité ni un phénomène. Je travaille avec les forces de l'ordre par ailleurs pour essayer de faire en sorte de calmer les choses. Je crois que c'est ça qui est intelligent. Mais ce que dit Koula, et j'aimerais vraiment mettre en lumière ça, et c'est vraiment très important, c'est que c'est un travail de tous les instants. C'est un engagement sans faille et il faut se donner corps et âme. Et encore une fois, que ce soit Moussa, que ce soit Koula ou que ce soit d'autres acteurs socioculturels, ils sont plus qu'essentiel. Les institutions ne peuvent pas se passer d'eux. C'est aussi bête et aussi simple que ça. Si on veut régler les problèmes de ces fractures sociales, les problèmes des violences dans les quartiers, et même toutes les problématiques que nous rencontrons, on a absolument besoin de ces gens-là. Et voilà, je voulais vraiment mettre ça en lumière, c'est important.
Je vais rebondir par rapport à Koula, par rapport au séjour qui s'est passé. Bah, le truc où je suis chaud au cœur, entre le jeune, il y a un affaire veillée, en fait, là-bas. Il y a un jeune qui dit, tu sais, c'est moi qui t'a planté.
Coup de couteau.
Coup de couteau, ouais, c'est moi qui t'a planté. Ça fait un coup de froid. Et l'autre, un autre collègue de Villé, il disait à l'autre, tu sais, c'est moi qui t'a planté. Tu vois, c'était tellement, j'étais chaleureux en même temps. C'était franchement, j'arrivais même plus à y croire. Après, ils ont fait des activités ensemble, on a fait des trucs de hallucinants.
C'est incroyable.
Sachant que eux-mêmes, ils savent qui a planté qui. Et voilà, pour te dire que c'est là que j'ai dit, les gars, c'est bon, ça y est, entre générations, cette génération, c'est fini. Ils vont plus se planter entre eux. Pour dire, arriver à dire, c'est moi qui t'a planté, et lui de dire, arriver, c'est moi, pour moi, c'était bon.
Bamba, il y a quand même une chose importante dans ces histoires d'embrouilles entre les bandes, c'est les réseaux sociaux. Quelle est la place des réseaux sociaux dans justement la montée de la violence, dans l'immédiateté de la violence?
Bah, c'est un outil pour pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait. S'il y a une humiliation, demain ça va être filmé et ça va être posté sur les réseaux pour montrer qu'en gros le quartier d'en face, bah, je saurais pas comment l'expliquer, mais en gros c'est pas ce qu'ils sont réellement. Ça a été mal utilisé, les réseaux sociaux, pendant toutes ces rixes-là, et ça a fait qu'empirer justement toutes ces choses-là. Ces personnes-là qui étaient humiliées prennent un coup dans leur ego et ça, des mauvaises idées leur montaient à la tête et c'est pour ça qu'ils revenaient directement se venger ou des choses comme ça.
En tout cas, vous ne le savez peut-être pas, mais il existe un bon moyen d'apaiser les tensions, voire les violences, au milieu de tout ce béton dans les quartiers, bah, c'est le jardinage. À Champigny, des habitants des cités disposent de petites parcelles pour faire pousser des plantes ou des légumes. On appelle ça les jardins familiaux ou encore les jardins ouvriers. J'ai rencontré Luc pratiquement au pied de son immeuble, il était en plein travail.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Vous, Luc, vous habitez où ?
J'habite juste à 50 mètres à vol d'oiseau du jardin, là, juste dans un HLM.
Et chez vous, alors, vous cultivez quoi, alors, sur votre parcelle ?
Ici, vous avez un joli piment d'Espelette, là, très mignon.
Un piment d'Espelette à Champigny-sur-Marne.
Voilà, exactement.
On peut le goûter comme ça, oui, ça se goûte
sûr.
Cru ou pas ?
Ah, oui, bien sûr. Ça va vous brûler la gueule. Hein.
Bon, on va pas tenter, alors.
Non, on va pas tenter. Quand on a un jardin, on essaie d'y cultiver les choses dont on a rêvé.
Vous dites le jardin c'est le rêve et en même temps le rêve peut côtoyer la tronçonneuse assez sauteuse du voisin de l'immeuble à côté. C'est un peu le paradoxe de la ville et du jardin ici. Hein.
Le jardin dans la ville, c'est la ville en mieux. Les gens qui passent là, ils s'arrêtent pour regarder, ça leur fait plaisir, on voit un sourire sur leur visage. C'est du lien social.
Ça va ? Bonjour, ça va et toi ?
Oui, très bien, merci. Je suis venu voir Juan pour lui remplir des papiers.
Ah, c'est pour des papiers, je croyais que c'était pour des tomates.
Oui, aussi, on a gardé quelques-unes.
Il y en a encore, ça s'appelle des corps de bœuf.
Ah, des corps de bœuf, ouais. C'est vous, Juan ?
Oui.
Juan.
Et c'est la femme de Juan ?
Thérèse.
Qui a lancé donc ce jardin familial.
Ce terrain-là, en fait, il était abandonné, il n'y avait que les chats qui venaient là. Et son épouse avait demandé au maire de notre commune s'il pouvait faire quelque chose de ce morceau de terrain. Et le maire avait dit à l'époque, bah écoute, on va peut-être faire un petit jardin pour les gens, pour qu'ils puissent s'asseoir. Et en fait, sa épouse a dit, ah non, surtout pas un truc, parce que tous les mômes qui se droguent dans le coin, ils vont être obligés de venir là. Alors on n'en veut pas, on va faire un jardin.
J'aimerais bien que ça se développe et qu'il y ait des oasis comme ça, un réseau d'oasis, qu'on puisse aller de l'un à l'autre pour circuler dans la vie.
C'est joli cette image d'oasis. Au milieu du béton.
Ouais, ça me plaît bien. Vous aimez la courgette crue ?
Ah ben j'adore moi.
C'est très bon la courgette crue.
Ah bah ouais, hyper bon.
Rendez-vous place du marché. Antoine Lee sur France Inter.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aient bien. Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
J'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées. Enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'y ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Faut entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdit, juste avoir les temps assez longs pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui trancha les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse,
mais laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? Que t'as pas vraiment ça pue dehors. Mais comment ça sent la mort? Quand tu respires ça mec t'es comme mort-né. Tu finis borné à force de tourner. Ton cerveau te fait des faux, te fait des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres tu joues de mieux en mieux ton rôle. Ton rôle de Kaira, juste pour le pas. Quand te dise voilà tu fais plus partie de la mifa d'en bas. C'est dingue mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs. La survie est un combat. Base de coups bas, de coups, de tombas, d'esquives, de super. De putain de stromba. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
Vous êtes sur France Inter, rendez-vous place du marché est aujourd'hui à Champigny-sur-Marne. On est en compagnie du comédien Hakim Jaziri, de Koula Kanabakassi et de Moussa Konaté, habitants de Champigny et de Villiers-sur-Marne, et qui se mobilisent pour que les jeunes de leur cité respective évitent de s'affronter. Il y a aussi à côté de nous Asma Ashraf, vous êtes la directrice de l'association Femmes Relais Médiatrices Interculturelles. Dans votre association aujourd'hui il y a 6 salariés, 60 bénévoles, on y parle 17 langues. Vous y recevez près d'un millier de femmes du Bois l'Abbé. Vous êtes une figure de ce quartier. Il paraît même qu'on vous appelle la mère du Bois l'Abbé, la maman du Bois l'Abbé. Vous confirmez, Koula ?
Asma, bah, c'est une grande femme parce qu'elle fait énormément de choses dans le quartier du Bois l'Abbé. Ça fait plus de 20 ans qu'elle a sa structure associative.
24 ans, hein ?
Ouais, bah, plus de 20 ans. Bah, ouais.
24 ans, vous donnez vraiment de votre temps, vous ne comptez pas votre temps. Vous avez mis en place de nombreuses initiatives pour aider les femmes du quartier et notamment du soutien à la parentalité, vous l'évoquiez tout à l'heure. On vient justement d'écouter NTM avec leur titre « Laisse pas traîner ton fils ». C'est quelque chose qu'il vous arrive de dire aux parents que vous rencontrez ?
Oui, je pense qu'au niveau de l'éducation, il faut qu'on soit tous vigilants, les parents, sur les enfants, et notamment sur la création de notre association au départ. En 1997, on était parti justement sur ces questions d'enfants qui étaient à la rue tard le soir. Et donc, c'était vraiment une question où il fallait vraiment accompagner les parents sur ça. Mais après, c'est des quartiers populaires, c'est des quartiers où il n'y a pas trop de mixité. Donc, il y a énormément d'origine où les enfants, ben, ils sont bien dehors, quoi, en fait. Hein. Quand les parents rentrent, ils envoient les enfants dehors pour qu'ils passent un peu de temps, etc. et tout. Donc, on n'a pas la même notion au niveau de l'éducation. Et donc, c'était là que c'était important d'accompagner les parents pour qu'ils puissent comprendre, en fait.
Mais justement, c'est quelque chose qui choque lorsqu'on n'habite pas ces quartiers. On se dit, mais comment ça se fait que ces enfants soient livrés à eux-mêmes? Où sont les parents? Que font les parents? Et des fois, on se dit que c'est un cliché, mais vous avez l'air de dire que c'est une réalité.
C'est une réalité sur les compositions familiales. On a des appartements qui sont petits, souvent. Les logements sont surchargés. Les parents travaillent. Donc, c'est des réalités qui sont sur le terrain. Après, ça n'empêche pas que, bon, ça donne une excuse aux parents aussi d'envoyer leurs enfants à l'extérieur et qu'ils passent du temps à l'extérieur. Mais je pense que cette prise de conscience, ça doit être pour tout le monde. Et aussi bien les parents que les institutions et les associations aussi sur le terrain.
Hakim Djaziri, vous, lorsque vous étiez jeune, vous étiez livré à vous-même? Il faut quand même dire que votre père, en Algérie, il était fonctionnaire, haut fonctionnaire. Votre mère était psychologue. Ils ont dû fuir le terrorisme islamiste en Algérie. Et vous, quand vous êtes arrivé dans votre cité des 3000 à Aulnay, comment ça s'est passé? Vous étiez livré à vous-même? Comment vous avez basculé dans la violence?
Non, j'ai jamais été livré à moi-même. J'ai toujours eu des parents extrêmement, et vraiment j'insiste là-dessus, extrêmement aimants, qui m'ont donné beaucoup d'amour, qui se sont battus corps et âme pour moi, qui ont tout sacrifié pour qu'on vienne dans un pays justement libre où on pouvait grandir avec beaucoup d'alternatives par rapport à notre société dans laquelle on vivait.
Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché alors?
Je crois que c'est encore plus complexe. Cette histoire d'éducation, c'est pas qu'une histoire d'éducation des parents, en fait. C'est ce que je pense, hein, à titre personnel. Je crois vraiment que il y a effectivement, bien sûr, il y a l'entourage familial qui est très important dans la construction d'un individu, et c'est normal. Je pense que inconsciemment, en tout cas dans mon propre parcours, si je n'ai pas été jusqu'au boutiste, comme je dis souvent, c'est aussi parce qu'il y a eu de l'amour qui a été distillé. Et que je savais qu'il y avait des gens derrière qui m'aimaient. Donc ça, c'est évidemment très important, bien sûr. Mais je ne rejetterai pas la responsabilité uniquement sur des parents, parce que il y a des parents qui sont aujourd'hui extrêmement démunis face à la rue. Comme je dis souvent, je dis que quand on est dans un carcan familial, on a notre place d'office. On sait, on se situe, on est l'aîné, on est le cadet, on est le plus petit, on a des repères, etc., etc. Par contre, dans la société, surtout quand on vit dans des lieux en marge, et je parle de lieux en marge, je ne parle pas forcément que des quartiers populaires, encore une fois, mais puisqu'on est sur cette thématique dans les quartiers populaires, il y a aussi la place que l'on veut avoir dans la société et qu'on a besoin d'avoir dans la société. Au fond, on a besoin de repères. Donc il y a aussi la construction individuelle par rapport à cette société, ce que la société nous renvoie. Et en réalité, il y a aussi toute une partie où c'est la rue qui reprend le relais, et des choix personnels. Parce qu'il y a des choix personnels qui rentrent en ligne de compte là-dedans, il ne faut jamais l'oublier. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vont aller jeter l'opprobre uniquement sur l'institution ou uniquement sur l'éducation des parents. Je crois que c'est encore beaucoup plus complexe que ça, et qu'il ne faut pas oublier les choix individuels. Bamba, tout à l'heure, disait « Moi, je n'ai pas participé à Cyrix », il y a aussi de ses propres choix à lui.
Koula, vous, sur justement cette idée qu'on a parfois que certains parents peuvent être démissionnaires, et ce qui peut expliquer que des enfants tombent dans la délinquance?
Pour moi, c'est trop facile, hein, parce que moi, personnellement, dans mon cas, nous, on est ici d'une famille de 11 enfants. Nos parents nous ont très bien éduqués, ils nous ont donné tout l'amour, on manquait de rien. Il y a des parents qui travaillent du matin au soir dans des métiers un peu compliqués, des salaires aussi un peu compliqués. Tous, c'est des grandes familles, donc ils ont du mal aussi à subvenir à leurs besoins. On a bien vu l'année dernière avec la crise sanitaire, tous les l'élan de solidarité qu'il y a eu dans les quartiers prioritaires, parce qu'on oublie beaucoup que c'est dans les quartiers prioritaires où il y a plus de solidarité. Moi, à mes yeux, c'est ce que je vois. Donc on a vu que des familles, que même nous, on n'aurait pas cru qu'ils étaient vraiment dans le besoin. Alors imaginez-vous, déjà, il faut payer son loyer. Et on manque de nourriture. Et après, l'éducation des enfants, c'est un peu compliqué. Après, peut-être il y a des parents qui sont livrés à eux-mêmes parce que il y a des familles monoparentales, etc. et tout. C'est vrai que c'est pas évident. Ensuite, on peut pas mettre tout sur le dos des parents. Mais il faut un soutien un peu de tout le monde, parce que les enfants sont élevés aussi par les parents. Mais il y a l'éducation nationale, il y a l'État, il y a pas mal de choses aussi.
Koula faisait référence à la solidarité pendant le confinement, pendant la crise sanitaire. Vous, justement, Asma Ashraf, vous avez vraiment déployé une énergie incroyable pour justement que la cité du Bois-l'Abbé n'implose pas. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, tout au début de la crise sanitaire, au moment de l'annonce au mois de mars, on a écouté les informations et il a fallu réagir rapidement, notamment par rapport à la population auquel on est confronté tous les jours et qu'on accompagne. Donc la question qui s'était posée, c'est comment vont faire les gens justement pour faire face à cette difficulté-là. Et donc la première chose, c'était de garder le lien justement avec ces familles-là. Et nous, dans l'association des Femmes Relais, on a décidé de créer des groupes WhatsApp avec les différents projets sur lesquels on intervient, que ce soit au niveau de la parentalité, l'éducatif, que ce soit au niveau des bénévoles, que ce soit au niveau de ça, pour pouvoir justement garder ce lien-là et pour avoir des échanges pendant cette crise sanitaire. Et donc ça nous a permis en fait d'avoir des retours des personnes qui avaient des difficultés, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des sorties, que ce soit au niveau des difficultés alimentaires, etc. et tout.
Donc, ne serait-ce que pour la sortie, par exemple, remplir une attestation, c'était compliqué parfois pour certaines familles.
Exactement. Donc c'était apporter de l'information au plus près de l'habitant. On a fait du tractage dans les boîtes aux lettres, on a vu avec les bailleurs, on a vu avec la mairie et on a pu justement mettre en place la distribution des... C'était quand même 135 euros d'amende pour des familles qui étaient en difficulté, des familles souvent monoparentales qui étaient vraiment face à ces difficultés-là et leur faire comprendre que même pour sortir, eh bien, il va falloir avoir un document, sinon c'est 135 euros d'amende. Et donc c'était apporter l'information au plus près de l'habitant et d'être présent quand même. Donc on était présent pendant cette crise sanitaire.
Et justement, en dehors de la crise sanitaire, quel est le rôle de votre association Les Femmes Relais ?
Alors nous, on est sur la médiation sociale, la médiation culturelle, on fait de la médiation santé et de la médiation scolaire. Donc on a des projets. Alors moi, j'interviens sur tous les axes de la vie quotidienne. On va dire sur de la médiation santé, là, ça nous a permis pendant cette crise sanitaire de travailler sur le programme Stop Covid Ensemble et d'apporter des réponses en même temps que l'accès aux droits, l'accès à la santé, mais aussi apporter l'information en temps réel auprès de la population, les informer sur les gestes barrières, les informer sur les difficultés rencontrées pendant cette crise Covid. Là, on continue à travailler sur la phase de la vaccination, on continue à accompagner la population sur l'information en général. Et comme on dit, c'est souvent le manque d'information, le manque de connaissance des dispositifs qui empêche au fait aux personnes d'accéder à leurs droits.
Vous êtes aussi un relais pour la République. Il y a un sujet qui agite pas mal la société française, c'est celui du séparatisme, du communautarisme. Politique et éditorialiste tordent régulièrement ce thème dans tous les sens. J'aimerais avoir votre point de vue, vous qui êtes sur le terrain.
Il va falloir trouver une solution parce que la France, elle a une très grande diversité et une richesse culturelle et qui compose cette France-là d'aujourd'hui. Et je pense que on doit valoriser chaque citoyen dans sa posture de citoyen, aussi bien en tant que citoyen, mais aussi bien en tant que parent. Donc œuvrer dans cette reconnaissance quand même de cette France qui est multifacette et qui est aussi multiculturelle. Et je pense qu'il faut qu'on prenne en considération justement chaque personne, qu'on puisse l'écouter, l'accompagner dans sa posture. Voilà, moi, en tant qu'actrice sur le terrain et sur mon expertise que j'ai, on ne peut pas faire l'économie justement derrière ces phrases qu'on entend sur ces lois, sur ces choses comme ça. En fait, que voilà, je pense qu'il faut qu'on améliore le vivre ensemble, qu'on puisse mieux vivre ensemble, voilà, parce qu'on vit déjà ensemble, mais qu'on apporte quand même des solutions, chacun à notre niveau.
Hakim Jaziri, en même temps, c'est une réalité qu'il y a des endroits, des marchés, on en a connu ensemble, où il n'y a pas un Français blanc, où il n'y a que des Français issus d'immigration ou des gens d'origine étrangère.
Ouais, c'est vrai. Si je reprends par exemple la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois dans laquelle j'ai grandi, j'ai vu cette bascule-là, j'ai vu la fuite de... je dis bien la fuite. Parce que
vous parlez de fuite, c'est la fuite de la population blanche, entre guillemets.
Oui, c'est la fuite de la population blanche, mais moi je crois très sincèrement que c'est pas par rapport à ce qui a été vu, entendu, machin, etc. Je crois pas que c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les Arabes, les Noirs étaient violents, parce que c'est pas le cas. Moi je trouve ça vraiment dommage, parce que dans l'absolu, encore une fois, la notion du faire société ou la notion du vivre ensemble, comme disait Asma tout à l'heure, est quelque chose qui est très naturel pour la plupart des gens qui vivent dans les quartiers populaires. Nous, vivre avec des Portugais, avec des Français, avec des Arabes, avec des Africains, avec des Tahitiens, peu importe leurs origines, en réalité, c'est pas du tout une problématique. Donc en fait, on a cet exemple-là dans pas mal d'autres quartiers où il y a encore des Français où ils sont très très bien accueillis. Enfin, je veux dire accueillis, c'est même le terme est ridicule. Vous vous rendez compte où on en arrive? Même moi, j'emploie des termes comme ça, accueillis, alors qu'ils sont chez eux évidemment. Mais c'est juste pour dire
concrètement que, évidemment, que c'est quelque chose qui est tout à fait regrettable. Moi, en tout cas, à titre personnel, je le regrette parce que on la voit, cette frontière Maginot, là, dans plein de territoires, justement, entre le nord et le sud. On voit effectivement que maintenant, ça se clive de plus en plus et qu'on a des territoires où il y a de la mixité ethnique, culturelle, mais pas sociale. Mais par contre, il y a d'autres territoires où il y a très peu de mixité ethnique et culturelle, mais par contre, où il y a un niveau de vie qui est relativement élevé. Et ça se voit ne serait-ce que par rapport au prix du mètre carré. Par exemple, quand on va dans les quartiers nord d'une ville, on est autour de 700, 800 euros, 900 euros le mètre carré, je sais pas, tout dépend de la ville. Et quand on descend après dans le sud, dans les zones pavillonnaires, comme ici à Champigny-sur-Marne, on arrive à 4000, 4500 euros le mètre carré. Déjà, rien que ça, c'est extrêmement parlant par rapport à la situation dans laquelle on vit. Et c'est impossible. On a des frontières comme ça invisibles et qu'on ne traverse pas consciemment, inconsciemment. Le paradoxe, c'est qu'on dit qu'on fait du communautarisme, mais c'est juste parce qu'on a le même quotient familial. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? En réalité, on est dans des lieux où on vit avec des gens qui, pas qui nous ressemblent, mais qui malheureusement ne peuvent pas sortir comme nous.
S'il y a une communauté qui a marqué l'histoire de Champigny, c'est celle des Portugais. Elle est très implantée ici, on en parle dans quelques instants, car c'est bientôt l'heure de l'apéro. Grâce à vous, José Gaspard, on va se régaler. Vous nous avez apporté plein de bonnes choses à manger. On fera aussi la connaissance de Aïcha Touré. C'est une artiste multicarte, elle nous jouera de l'accordéon. Mais avant, on va écouter une artiste qui va vous plaire, José. C'est Dom La Nena, elle est d'origine brésilienne, elle chante donc en portugais. Sa chanson, c'est Vero Passar. Est-ce que je l'ai bien dit?
Absolument.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire le temps qui passe.
C'était facile pour vous, hein? Allez, on l'écoute.
Vejo passar pela janela as estações de trem. Passa o inverno, passa o verão. Quando você vem, vejo a lua e as estrelas. E vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas. Sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passa o inverno, passa o verão, mas você não vê.
Nous sommes à Champigny-sur-Marne. Je suis toujours avec Kula Kanamakasi et Hakim Jaziri. Là, ça se gâte, hein, au niveau du temps.
Hein. Ouais, ça se gâte un petit peu. Ouais.
Et là, je pense que même ça va tomber. Donc, on va aller vite se réfugier au restaurant L'Euro, où on est accueilli par le patron Jamel et sa serveuse Daisy. On va rejoindre le reste des invités. Asma Ashraf, Moussa Konaté, Bamba qui est toujours là. Et on retrouve aussi Aïcha Touré qui va nous jouer de l'accordéon dans quelques instants. Et surtout José Gaspard, vous êtes à la tête de Primeland, l'une des plus importantes chaînes d'épicerie portugaise. Alors vous nous avez apporté plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on a là?
Le fameux pastel de nata.
Les petits desserts,
oui.
Des petits flans.
Et les beignets morue, crabe, bœuf et crevettes.
J'invite tout le monde à se servir. On a même pensé à apporter une petite pince. Irène Menem va vous servir. Vous nous direz ce que vous en pensez. José Gaspard, on vous a invité parce que, en fait, à Champigny, il y a une très forte communauté portugaise. Comment ça se fait?
Comme partout en Île-de-France, nous sommes à peu près 9% sur la population de Portugais. Champigny parce que au départ il y a eu les fameux bidonvilles, qui a eu à Saint-Denis également, qui a eu dans d'autres villes.
Mais celui de Champigny était l'un des plus importants. Hein. Ça rassemblait entre 15 000 et 20 000 personnes.
C'est pour ça que nous ayons été immigrés, moi début des années 70, mais d'autres dans les fin des années 60. Nous avons été immigrés une fois et on a toujours eu des difficultés à quitter la ville qui nous a accueillis. C'est pour ça que les Portugais ont toujours continué à habiter dans les villes où ils ont été en premier.
Le problème, c'est que vous n'avez pas été très bien accueillis, il faut dire ce qui est.
Pour nous, à l'époque, ce n'était pas difficile parce que nous venions des conditions pires qu'il y avait ici. Pour nous, c'était le paradis. On habitait dans une énorme cité. Mais le fait que nous venions d'un pays où la vie était très, très difficile, nous avions retrouvé des meilleures conditions de vie ici. C'est pour ça que c'était moins difficile que ça ne l'est aujourd'hui.
Ce qu'on a du mal à imaginer, c'est que malgré l'intégration du Portugal dans la communauté européenne en 86, les travailleurs portugais travaillaient illégalement. Et ce n'est que en 92, avec les accords européens de la libre circulation des personnes, que les travailleurs portugais ont été régularisés. On a du mal à imaginer ça.
Il faut savoir que dans les années 70, il y avait d'abord la carte de séjour. Et ensuite, il nous fallait une carte de travail pour pouvoir travailler. Cette carte de travail, nous ne pouvions l'obtenir que grâce à un contrat de travail avec un employeur qui durait minimum un an. Et à l'époque, je vous dis pas combien que nous étions payés. Au début des années 80, à la date où je me suis mis à mon compte, on ne pouvait pas se mettre à son compte. Il fallait avoir un gérant français, un associé français. Exactement comme dans des pays du tiers-monde aujourd'hui, on dit que ces pays-là, c'est très difficile de s'installer, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 40 ans, c'était la même chose.
Vous avez goûté, là, les délices, Hakim? C'était comment? Qu'est-ce que vous avez goûté, vous?
Moi, j'ai pris le morue crevette. C'est très bon.
Ouais. Kula?
Oh, délicieux, en plus j'avais une faim de loup.
Ou Asma?
Acra de morue, très bon, merci.
Moi j'ai pris morue crevette. Ouais. C'était délicieux.
Bon bah
ouais, pareil, les crevettes aussi, c'était délicieux.
Ouais. Servez-vous, hein, continuez, régalez-vous. Pour accompagner ces douceurs ibériques, on va écouter un peu de musique avec vous, Aïcha Touré. Vous êtes campinoise depuis 15 ans, vous habitez juste à côté du marché. Alors vous, Aïcha Touré, vous savez tout faire. Dites-nous, vous faites quoi, vous?
Alors, actuellement, je suis chanteuse accordéoniste et aussi, je suis danseuse de claquettes. J'étais acrobate quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé en cirque, j'ai fait de la voltige à cheval. J'ai travaillé avec la compagnie Zingaro, on a beaucoup tourné. Et là, en ce moment, ben, je travaille sur mes chansons, mes titres, voilà quoi. Et je travaille en théâtre de rue, avec des compagnies de théâtre de rue aussi.
Alors là, vous êtes venu avec votre accordéon et vous avez accepté de nous jouer un petit morceau. Voilà. On vous écoute.
Ça s'appelle « Un petit coin », qui est une petite chanson d'amour écrite pour ma fille.
On a bien besoin d'amour, on vous écoute.
Pas ma bouche pour embrasser tes joues, et même si par malchance je n'avais plus aucun sens, et même si par malchance je n'avais plus aucun sens, on se serait quand même trouvé un petit coin pour s'aimer, hein. On se serait quand même trouvé un petit coin pour s'aimer, hein. Uno vi de dia, uno vi u move, te udua kitei bokoi, hole opeli tondono. Te udua kitei bokoi, hole opeli tondono. Itondo kondove, itondo kondove.
C'était magnifique. Merci Aïcha Touré.
Merci.
C'était quelle langue à la fin?
Alors, c'est le Benga, c'est ma langue maternelle, qui est une langue du Gabon, et voilà, dont je suis originaire. Je suis originaire de Guinée et du Gabon, Guinée-Conakry, Gabon.
Aïcha Touré, vous intervenez auprès des jeunes par le biais de l'association Point Écoute, qui fait un travail formidable ici à Champigny, auprès des ados en difficulté. En quoi ça consiste, vos interventions auprès des jeunes?
Alors, on fait appel à moi pour faire des ateliers, soit de danse, de claquettes, faire des initiations de rythmique, claquettes, ou bien aussi auprès des femmes en alphabétisation. Et dans d'autres villes, je travaille avec des associations de femmes, en fait, qui alphabétisent des personnes qui sont en France depuis longtemps, mais qui ne sortent pas, ils restent souvent entre eux, donc ne parlent pas forcément bien le français. Donc on prend des chansons, on décide de choisir une chanson, on apprend cette chanson, on apprend à comprendre, à décortiquer le sens des chansons. Et justement, c'était rigolo, on avait appris la chanson « Le Petit Coin ». Et il y a une femme qui pensait que quand je disais « si je n'avais pas mon nez », elle pensait « si je n'avais pas money, si je n'avais pas d'argent ». Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui sont rigolotes, parce qu'on peut avoir plein de malentendus par rapport à des gens qui parlent d'autres langues aussi.
C'est important, la culture en banlieue. Il n'y a pas que le rap, la culture ne se résume pas au rap. Hein. Il y a du théâtre, mais on n'en parle jamais de ça.
Ah ouais, non, la culture ne se résume pas au rap, et en plus de ça, il n'y a pas que des amateurs de rap dans les quartiers populaires, au contraire. Là, Aïcha, par exemple, on est l'exemple vivant. On a vraiment beaucoup de talent dans les quartiers. Mon rôle aujourd'hui, en tout cas, à travers ce que je pratique, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait plus d'accès à la culture. Moi, je sais que c'est ça qui m'a sauvé à une période de ma vie. Je ne peux que militer dans ce sens-là. Aujourd'hui, je vois plus grand parce que j'ai la chance d'être soutenu, accompagné dans mon travail, et que j'ai la chance de pouvoir créer autour de sujets sociétaux qui monopolisent le débat public. Donc ça, c'est vraiment important et primordial. Mais surtout, moi, j'essaye aujourd'hui d'être une sorte de vecteur, ou plutôt j'essaye de mettre la lumière et de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas, mais qui la réclament depuis un certain temps. D'où le fait que je crée aussi une série théâtrale en 5 épisodes autour de paroles d'hommes et de femmes et d'itinéraires sur, encore une fois, des sujets de société très, très touchy et qui, encore une fois, monopolisent le débat public. Je trouve que c'est important et je trouve que c'est essentiel, justement, cette parole-là, elle doit exister, elle doit être intégrée dans le paysage français.
Aïcha Touré, vous voulez bien nous jouer juste un petit morceau d'accordéon pour nous accompagner pour la fin de cette émission? Merci à tous, merci à la mairie de Champigny pour son accueil. Hakim Jaziri, rapidement, juste le temps de dire que vous préparez une pièce qui va faire beaucoup de bruit, ça s'appelle Audrey, l'histoire vraie d'une djihadiste repentie. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, elle a été préparée par la précieuse Irène Menahem. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouverez Aurélie Sfèze, elle sera à Saint-Sauveur-en-Puisaye.